Bonjour à tous, à ceux que j'ai pas dit bonjour, je sais pas. L'objet de cette rencontre culturelle aujourd'hui, c'est de parler un petit peu de qu'est-ce que le métier d'auteur de JDR, de jeu de rôle. Et on va pour ça avoir Yann Feja, l'auteur de Subabyss, Jérôme, Crystal, Trinité et un peu Ténébrae. Et Brand, qui a beaucoup trop de JDR pour tous les citer. Mais Tenga, Tin et Ryutama, entre autres.
Ouais, par exemple.
Voilà. Déjà, comment ça vous est venu, cette idée d'écrire pour du jeu de rôle? En premier lieu. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir auteur, à vouloir écrire votre propre jeu de rôle?
Bon, c'est moi qui commence.
Apparemment.
Moi, l'envie m'est venue assez rapidement parce que on a tous essayé tous ces jeux-là assez classiques des années 80-90. Et assez rapidement, moi, je me suis pas retrouvé dans ces jeux-là. Et j'ai voulu créer quelque chose qui soit un outil, un couteau suisse, spécialement adapté à mes désirs. Et donc, deux choses me sont venues à l'esprit. Premièrement, trouver quelque chose qui me plairait et éventuellement trouver quelque chose que les autres n'avaient pas fait. C'est comme ça que m'est venue l'idée en 91 de commencer à écrire Subabyss. Voilà, un territoire vierge, puisqu'à l'époque on n'avait pas colonisé le fond des océans. Et puis de nouvelles idées que j'ai mis quelques mois à mettre sur papier, sur brouillon, et puis petit à petit avec mon cercle d'amis à développer. Voilà. Ça vient d'une envie avant tout personnelle. Et puis c'est vrai que la démarche de vouloir le faire connaître aux autres, ça a permis de développer le jeu également, quoi.
D'accord.
Bah, de mon côté, c'est le fait de beaucoup jouer, comme tout le monde, de bidouiller, parce que à l'époque, nous on jouait alors à l'ancien club de Tarbes, un truc comme ça, et on jouait beaucoup à un jeu qui s'appelait Bushido, un jeu sur le Japon médiéval et qui est, je vais avoir du mal à en dire du mal vu le nombre d'heures trop géniales qu'on a passé à jouer dessus, mais dans les faits aujourd'hui il paraîtrait pas mal buggé en fait, et on avait tous nos photocopies, on modifiait nos trucs au crayon dessus, enfin c'était des immondices ces bouquins tellement il y avait de couches de stabilo, de crayons, etc. Et de fil en aiguille, en faisant des petites modifs, on a commencé à en faire des grosses, etc. Et puis un jour l'opportunité s'est présentée et ça a été banco, quoi. Allons-y, c'est un rêve de gamin. Même si je suis pas sûr de moi et que le premier ce sera sans doute de la merde, c'est pas grave, faisons de la merde, au moins j'aurais fait ça, quoi.
Moi en fait, c'est depuis longtemps, j'ai toujours voulu créer des univers, des jeux depuis que je suis tout petit, et donc après le passage à l'édition, ça s'est fait par des opportunités, des mailing lists sur lesquels j'étais repéré pour Trinité, un jeu des 12 singes, et au final du coup j'ai eu l'opportunité de présenter mes jeux et donc y en a un qui a été retenu, Crystal. Mais du coup voilà, c'est toujours c'est une envie depuis tout petit de création, d'invention, de faire partager des univers auxquels on tient.
Jusque-là, donc il y a tout ce processus de création. Comment ça se passe pour créer un jeu concrètement? Comment on choisit l'univers? Comment on choisit le système de règles? Comment est-ce qu'on met en forme en fait tout un jeu de rôle en fait?
Alors, il y a à peu près autant de méthodes que de personnes qui en font. C'est dire si on sait ce qu'on fait, hein. Le que s'appelle globalement l'idée, c'est de partir du principe qu'on va avoir un truc qui est intéressant à jouer. Et c'est vraiment aussi con que ça. C'est-à-dire qu'on crée son jeu, on peut se poser la question de le publier ou pas. Alors c'est un truc qui est un peu un tue-l'amour, mais c'est super important. Tous les jeux ont pas besoin d'être publiés. Et par contre, ceux sur que vous voulez publier, du coup, vous êtes plus libre de bosser dessus une fois que vous avez fait le choix volontaire de les publier, enfin, de chercher à les publier ou pas. Et après, c'est se dire, ok, si je fais ça, c'est globalement que ça va intéresser d'autres personnes. Même si je fais jouer que mes potes, ça va durer peut-être des parties de 6 heures tous les X temps. il faut quelque part que je sois sûr que je puisse les emmerder avec ça. Si on joue chez eux, faut que je sois sûr qu'ils me virent pas à coup de pied au cul au bout de 2 heures, quoi. Et donc l'idée, ça va être de trouver qu'est-ce qui est intéressant. Et ce qui est intéressant, ça peut être, y en parler d'un territoire vierge sur un truc qui n'existait pas du tout à l'époque. Ça peut être très intéressant pour jouer. Ça peut être des modifications qu'on fait à un système. Ça peut être tout et n'importe quoi. L'idée départ, quelque part, on s'en fout un peu. La base, c'est se dire, ok, en quoi est-ce que je peux intéresser quelqu'un d'autre? En quoi c'est pas un ego trip, en fait? En quoi ça n'existe pas déjà 15 fois ce que je fais? Et puis le reste, bah, ça va juste être développer cette idée-là, en fait. Enfin, ça, c'est la façon dont moi je fonctionne, mais encore une fois, il y en a autant que d'auteurs, quoi.
Comment on passe à l'édition déjà? Comment t'as créé
Crystal, en fait? Comment t'as choisi ton univers? Comment t'as choisi ton système? Comment t'es arrivé en fait à de quoi tu es parti et comment tu as, dans quel processus tu as?
En fait, c'est parti d'une idée en sortant d'un film. Je rejoins Brand, en fait, c'est faire quelque chose que je retrouvais pas dans les jeux qu'il y avait auparavant, essayer de faire une chose différente. Et donc là, c'était du post-apo qui soit tourné vers l'espoir et l'aventure plus que vers la difficulté et les aspects sombres du post-apo.
Côté survivaliste.
Voilà, on voulait s'éloigner du côté survivaliste. Et donc voilà, c'est juste une idée, c'est se dire, bon, ben, peut-être que prendre le post-apo un peu à contre-pied, ça peut intéresser des gens. Et c'est comme ça que, du coup, on a tourné l'univers, qu'on a fait. En fait, pour Crystal, on est parti du DK System, puisque ça a été imposé par l'éditeur. Mais après, on l'a modifié pour essayer de coller un peu plus à ce qu'on voulait faire. Mais voilà, ça rejoint vraiment Brand sur essayer de proposer quelque chose qui puisse intéresser les autres, qui n'ait pas forcément été déjà fait. Voilà, le faire à sa manière aussi.
Et juste, pardon, c'était quoi le film du coup? Ouais.
Alors, le film, c'était.
Ça l'a pas marqué.
C'était. Total Recall, je crois, le remake.
Le remake?
Ouais. Mais ça vient pas du tout de là.
Ouais, parce que comment on passe de Total Recall
je veux bien savoir comment on fait. Ouais.
En fait, Total Recall, en sortant, on s'est dit que bon, bah, ça ressemblait un peu à du post-apo, mais surtout, en fait, c'est l'idée qu'il y ait des villes qui soient vraiment séparées les unes des autres et qu'on puisse très difficilement rejoindre. Puisque dans le remake, je connais pas l'original, mais dans le remake,
L'original est mieux. Hein.
Ouais, je sais, faudrait que je regarde. Mais dans le remake, il y a une espèce de grand train qui traverse.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Voilà. Et donc, en fait, c'est cette idée, en fait, qui. C'est de là qu'est parti Crystal, en fait. C'est d'avoir des villes vraiment séparées les unes des autres, très éloignées, avec des comportements très différents, des sociétés très différentes. Et. À côté, une discussion qu'on avait dans notre groupe de joueurs en se disant que le post-apo c'était souvent assez désespéré et c'est pas vraiment ce qu'on voulait faire. Donc, voilà.
En tout cas, ce qui est super intéressant sur ton exemple, c'est que vraiment on peut prendre n'importe quoi d'une inspi Total Recall. Enfin, vous avez bien vu nos têtes, quoi. Donc pour un post-apo qui se passe avec la nature, avec autant d'importance de la nature. Total Recall, donc une planète rouge avec des villes.
Mais c'est ça, les esprits créatifs.
Ouais, c'est ça.
On accumule une somme de données, et puis de temps en temps, hop, on a une idée, on ne sait pas d'où ça vient d'ailleurs. Bah, on la prend.
C'est vachement intéressant. Bah, c'est ce qui se passe sur tous les trucs. Quoi.
C'est vrai.
On fait des parallèles et des liens. Par contre, ces liens-là, sincèrement, il faut se lever tôt pour les comprendre. Quoi. je ne parle vraiment pas que du tien. Quoi.
Alors justement, en ce qui concerne Subabyss, moi ce qui m'a motivé, comme tu l'as dit, c'est le territoire vierge. Bon, il faut savoir, bon, à l'époque, en ce qui me concerne, on est tous un petit peu des enfants du cinéma ou de la télé. C'était la grande époque d'Octobre Rouge, de The Abyss de James Cameron, des vieux nanars comme Léviathan, Mal, des trucs comme ça.
Classe.
Ouais. Et ça m'a donné l'envie effectivement de créer mon monde, beaucoup plus futuriste que ce qu'on a vu dans ces films-là d'ailleurs, pour avoir plus de possibilités. Et voilà, le concept est parti de là. Après, pour les systèmes, c'est moi j'en suis arrivé à 3 ou 4 systèmes avant de trouver celui qui naviguait correctement, quoi. C'est à force d'essayer des dizaines de parties qu'on arrive à trouver à peu près ce qui convient, quoi. Voilà, avec les retours des joueurs. C'est les joueurs, c'est son rotor au dernier degré. Ils vous mettent de suite le doigt là où ça va pas, où ça fait mal, hein. Ça, pour ça, on les a tous les mêmes, hein.
Justement, je reviens sur quelque chose que vous aviez l'air de dire à peu près tous, c'est de faire cette différence entre l'idée qui est sympa, qui a l'air sympa entre potes, et celle qui va faire la différence et qui va plaire au plus grand. Donc, comment est-ce qu'on a conscience de cette différence, en fait? Comment est-ce que vous êtes arrivé à vous dire, ce jeu-là, il peut plaire à plus de gens que juste mon groupe d'amis?
Comment distinguer un Harry Potter d'une bouse, quoi? C'est les gens qu'on a autour de soi, quoi. En gros, c'est les...
À l'odeur, ouais.
Non, mais voilà, J.K. Rowling, elle a été refoulée je sais plus combien de fois chez des éditeurs à succès, probablement. Ils doivent s'en mordre les doigts aujourd'hui. C'est le public, d'une certaine façon, c'est les amis. Alors, vous me donnerez votre avis, mais il faut être... Il faut garder à l'esprit que les gens qu'on a autour de nous sont pas forcément aussi méchants que des gens qu'on connaît pas. La famille, les amis sont souvent plus sympas avec nous, donc bon, il faut relativiser aussi, hein, un succès d'estime, on va dire.
Ouais, déjà, je vois pas pourquoi tu pars du principe que ça plairait à nos potes. On choisit pas tous nos potes. Non, plus sincèrement, moi le truc dont je me sers le plus, c'est d'aller en conv, en fait, tout simplement. D'aller en conv. Et parce que grosso merdo, les gens que tu vas croiser, qui ont pas forcément envie de jouer avec toi, qui te connaissent pas, qui n'ont rien à foutre de ton jeu, et qui se demandent pourquoi est-ce qu'ils sont pas en train de jouer à Donj ou à Shadowrun. Alors c'est plus trop le cas sur les convs aujourd'hui. Mais il y a 10 ans, c'était clairement ça, quoi.
C'est l'épreuve du feu, hein.
Ah ouais, c'est et les gens qui ont pas envie de jouer avec toi, tu vois à la fin de la partie si ça leur a plu ou pas.
Ah, c'est clair.
Et par contre, si ça leur plaît pas,
ils savent te le dire aussi.
Alors oui, ils savent te le dire et faut juste apprendre à gérer ces retours-là, pas forcément parce que ça blesse ton amour-propre, mais parce que il y a plein de raisons qui font qu'une partie ça peut foirer et c'est pas forcément le jeu. Moi je sais, je vais souvent sur des confs qui sont assez loin. Et il m'arrive d'arriver mais complètement crevé. Et quand les parties foirent, c'est pas toujours la faute au jeu et c'est pas toujours la faute au joueur. J'irai pas jusqu'à dire que c'est la mienne, mais les stats poussent à dire que parfois si quand même. Donc, mais en tout cas, ce retour des joueurs, comme tu disais, c'est super important. Et l'autre point qui est important, c'est que l'idée, globalement, l'idée, on s'en fout en fait. Pourquoi on s'en fout? Parce que tout le monde a des idées. Tous les MJ ont des idées. Une grosse injustice qu'on écrit, c'est que l'illustrateur, en fait, il a tout le temps des retours qui sont plus agréables que vous. Pourquoi? Parce que tout le monde ne pense pas savoir dessiner, alors que tout le monde pense savoir écrire. Et dans les faits, c'est vrai que pour faire un jeu, il suffit de l'écrire, mais pour transformer l'idée et arriver à la fin du premier bouquin, bah, c'est pas si évident que ça. Et ça demande pas forcément des qualités de style ou je sais pas quoi, littéraire. Et
l'aspect ludique aussi, c'est très important. Ludique.
Mais même
c'est compliqué à mettre en avant. Hein.
Même, enfin, moi je parlais même avant ça, tu vois, de l'endurance qu'il faut pour arriver à la fin d'un bouquin.
C'est vrai, faut être têtu.
Oui, faut être vraiment têtu. Ouais. Ouais. Et faut accepter de se manger quelques gamelles et quelques retours, mais ça fait partie du jeu. Et par rapport à ça, bah, déjà arriver au bout d'un premier truc, c'est énorme. Et ça va être le développement, pas simplement l'idée initiale, mais tout ce qu'on va amener aussi en le faisant, qui va faire que quelque part, ça, c'est ça qui va transformer l'idée. La simple idée, tous les MJ en ont. Et c'est super difficile aujourd'hui d'arriver avec une idée de jeu et se dire que personne ne l'a eu. Surtout enfin, dans le jeu de rôle, où il y a une règle de base, c'est que tous les jeux de rôle peuvent être comparés à Shadowrun. Quoi que vous fassiez.
Ou donjon.
Ouais, donjon. Même moi, je dirais Shadowrun.
Ouais, ouais.
Enfin, moi, je sais pas. Moi, je sais que sur tous les jeux sur lesquels j'ai bossé, quel que soit le style, quel que soit le genre, on les a toujours comparés à Shadowrun.
Moi, on m'a comparé à du cyberpunk aquatique. C'est.
En même temps,
ah ouais.
C'est du cyberpunk aquatique, non.
Et après, on m'a dit que c'était pulp. C'est marrant ça aussi.
C'est du cyberpunk aquatique alors.
Ouais, c'est ça. Au fur et à mesure, ça s'allonge, tu vois. C'est... Ça tient plus sur la couverture.
À ton tour.
Est-ce que t'as quelque chose à ajouter?
Ouais, enfin. Ce que je dirais aussi, ce qui est important, c'est de savoir, au moment où on propose le jeu, par exemple à un éditeur, c'est de savoir précisément ce qu'on joue, pourquoi c'est intéressant, pourquoi on pense que c'est intéressant. Et voilà, vraiment, en fait, les points forts du jeu. Parce que donc, j'ai proposé plusieurs projets à un éditeur, il y en a qui ont été refusés et qui ont à raison. Mais on s'en rend pas forcément compte au début que c'est ta raison. Et en fait, il y a plein d'univers qui sont très chouettes entre potes, mais qui sont pas adaptables parce que trop complexes ou simplement trop flous, des choses trop centrées sur des scénarios qu'on fait parce qu'on a un groupe de joueurs et qu'on pense pas, on pense pas forcément à écrire des scénarios pour tout le monde quand on crée son propre univers. Alors que quand on écrit dans l'optique de faire vraiment publier, y a vraiment cette idée de plaire au plus grand nombre et d'essayer d'attirer les gens en leur expliquant clairement pourquoi le jeu est bien et quels sont les types de personnages qu'on va jouer, le type d'aventure qu'on va jouer, ce genre de choses.
Ouais, savoir défendre son jeu, quoi.
Voilà.
Vraiment.
C'est un truc là-dessus... ça m'arrive régulièrement d'animer des ateliers de création de jeux de rôle en fait, ou de recevoir des propositions de jeux de rôle. Et pour rebondir sur ce que disait Jérôme, c'est super rare qu'on ait un jeu avec un pitch qui soit clair. C'est-à-dire, la plupart moi, des propositions que je reçois, c'est des jeux où on me parle de nombre de races, de nombre de classes, de nombre d'étoiles, de trucs comme ça. Et c'est un véritable tue-l'amour en fait, parce que quand tu reçois le mail avec le jeu, tu sais pas rapidement de quoi ça cause. Tu sais pas rapidement. Tu commences par une mauvaise impression en fait. Et clairement, ça aide pas. Hein. C'est, je veux dire, comme n'importe quelle communication. Mais le fait de dire, ok, qu'est-ce qu'on joue, qu'est-ce qu'on fait, où on est, et en gros, c'est quoi le problème qu'on a en face. C'est la base. Mais franchement, tout le monde le fait pas très loin de là.
C'est vrai.
J'avais une autre question parce que vous avez quand même trois expériences très différentes en termes d'écriture, hein. Je pense à Yann où t'as écrit à la base, toi t'es seul auteur, même si t'as un collectif autour de toi, une asso, et Jérôme où tu as écrit, vous êtes cinq auteurs sur
oui.
Crystal,
oui.
Et Brand, je suppose que tu dois avoir un peu des deux. Puisque...
Ça varie selon les projets.
Voilà. Quels sont les avantages et les inconvénients de la coécriture, justement ? Est-ce que c'est mieux d'écrire seul ? Est-ce que c'est plus simple ? Quels sont les avantages et les inconvénients de chacune de ces façons, en fait ? Travailler à plusieurs ou non ?
Alors, je vais commencer. Déjà, l'avantage, c'est que à 5, on a forcément beaucoup plus d'idées que seul. Et donc, Crystal, à la base, j'ai posé un univers qui a été accepté par les 12 singes, donc l'éditeur. Et donc, au départ, j'avais mes idées, et heureusement qu'on était 5 parce qu'on en a rendu, ça a rendu l'univers beaucoup plus riche, avec beaucoup plus de nuances. Et au final, avec 5 cerveaux, on a beaucoup plus de choses pertinentes en fait qui sortent. On a une synergie de groupe, je trouve. Donc ça, c'est très important. C'est vraiment un atout majeur. Après, l'inconvénient, c'est la gestion des plannings. Parce que à 5, on accumule plus facilement les retards. Et surtout, si les textes sont dépendants les uns des autres, s'il y a un peu de retard à chaque fois, ça va se répercuter. Et autant quand on est seul, on peut se dire, bon, ben, j'irai plus vite sur cette partie, donc je peux me permettre de prendre un peu de retard. Autant à 5, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Ça dépend du contexte aussi, parce que les 12 singes imposent des plannings assez, assez fixes. Donc on peut pas vraiment se permettre de retard. Donc le jeu doit sortir quand il doit sortir, à une date fixe, globalement. Je sais qu'il y a d'autres manières.
C'est génial ça comme façon de fonctionner.
Ouais, je suis surpris aussi.
Ouais, on devrait écrire un jeu comme ça.
Donc voilà.
Par contre, sur le fait d'être plusieurs, ce que ça aide pas quand les retards s'accumulent. Mais là où c'est génial, c'est quand t'as n'importe quoi qui arrive. parce qu'on passe pas son temps à écrire, on a des familles, on a des pépins de santé, on a tout qui peut arriver. La plupart des gens le font avec un taf à côté. Et en général, c'est un peu compliqué de dire à ton patron, non, je peux pas bosser sur cet appel d'offres parce que j'ai un chapitre à finir là pour mon truc ou tu sais le machin où on se prend pour des elfes et des chevaliers zodiaques.
Mais tu le fais pas toi ? Moi, je le fais tout le temps.
Alors moi, j'ai changé. Je me suis débarrassé de mon patron.
T'as bien fait.
Et du coup, maintenant, je peux m'occuper des elfes et des chevaliers zodiaques à peu près peinard. Par contre, sur les appels d'offres, je suis nul. Hein.
C'est vrai.
Mais du coup, ouais, avoir quelqu'un pour qui puisse revenir à la charge ou te remplacer quand c'est difficile. Moi, j'ai quelques projets en tête. Je me souviens moi d'un projet que j'ai fait où j'ai dû rendre mes textes la semaine où mon père est en train de mourir en fait. Et j'ai mis le point de final genre une heure avant. Le texte que j'ai rendu, c'était une sombre bouse, hein. Mais vraiment quoi. Enfin, et c'est normal, j'avais l'esprit ailleurs, on ne peut plus compréhensible. Et c'était assez génial d'avoir un pote qui a pris le truc, qui a vu que je pouvais pas gérer et qui a géré à ma place en fait. Et ça, quand t'es tout seul, tu peux te brosser. Hein.
Hop. Moi, j'ai écrit tout seul parce que j'ai pas eu trop le choix. C'est avant tout un projet personnel, même si j'ai eu quelques amis qui m'ont donné des petits coups de main, ça et là. Bon, la plupart, c'était plutôt des idées au cours de conversation que 30 pages écrites. Hein. Les avantages, on n'a pas à débattre du sujet pendant 20 ans. Le gros inconvénient, c'est que de temps en temps, on se conforte dans une idée qui est mauvaise. Et il faut ravaler son orgueil pour faire avancer les choses, pour que justement le jeu puisse être plus beau, quoi, meilleur. Mais c'est vrai que c'est pas évident d'écrire tout seul, quoi. Après, il est vrai que d'être à plusieurs, c'est plus de matière grise, comme tu disais, plus d'idées, plus d'avis différents aussi. Des fois, sur un simple point de règle, on passe 2 heures à débattre et ça n'avance pas. Voilà. En tant qu'auteur unique, j'ai toujours le dernier mot. Mais bon, c'est vrai que je suis preneur d'idées nouvelles, de talents nouveaux, surtout sur Subabyss. Voilà quoi. Bon, c'est un parcours que j'ai eu, j'ai pas eu trop le choix non plus quoi.
Ouais, sur les différents formats, je pense que ce que je préfère, c'est d'avoir un groupe très réduit d'auteurs, en fait. 4-5, vraiment pas plus. Et d'avoir, par contre, une personne qui, clairement, a ce qu'on... ce que chez Jono, ils appellent directeur cut, en fait, qui a la décision finale. Et on se met tous au service du jeu, d'abord, et des décisions de cette personne. On peut expliquer un point de vue, mais on va pas pinailler, on va pas négocier. Et on accepte pour un projet donné de se mettre au service de la personne en question. Si la personne en face est pas trop débile et accepte de discuter, c'est juste un régal parce qu'on a un jeu qui reste très très efficace, très concentré sur une façon de jouer spécifique et qui va au bout des choses. Et à côté, on a les avantages d'être à plusieurs. Quoi. Après, il faut, ça nécessite déjà de connaître d'autres personnes qui sont capables de porter ce genre de projet, qui sont prêts à le faire. Mais, moi, c'est la formule que je préfère en tout cas.
On a fait à peu près le tour des questions. Je vais vous laisser quand même un peu de temps à chacun si vous avez des questions.
En fait, j'en ai plutôt deux. Donc, je vais commencer par la première. Tout à l'heure, vous avez mentionné le retour des joueurs, en fait. Et je voulais savoir comment ça fonctionne, en fait, pour la création d'un jeu, le retour des joueurs. Est-ce qu'ils participent même à la création ? Ça vous aide à avoir des nouvelles idées ? Ça vous permet de construire quelque chose ? Ou est-ce que c'est juste le retour qui, après, vous donne d'autres idées, d'autres sources d'inspiration, peut-être, comme vous disiez tout à l'heure ?
Dans mon cas, les deux. C'est-à-dire, je tiens compte de ce que disent les joueurs. Ça s'intègre souvent directement dans le background du jeu, parce qu'ils connaissent le jeu, ils me connaissent à moi, donc ils ont tout intérêt à prendre part à cette aventure-là, quoi. Ça veut pas dire que je dis oui à tous les retours. Il y a des choses qui sont pas forcément très objectives parce que un joueur, ça reste un joueur. Hein. Il y a très peu de personnes qui arrivent à se dire c'est pour le bien du jeu, pas pour mon perso. Donc en fait, il faut dépasser cette idée-là. Voilà.
C'était surtout en fait de savoir à quel moment ils influencent en fait votre jeu, le joueur. Est-ce qu'ils l'influencent vraiment ou est-ce que c'est vraiment
en fait, alors selon les projets, encore une fois, et en partant du principe que vraiment chacun a sa façon de faire. On va distinguer en fait les différents types de tests et à quelles étapes on les fait. Par exemple, enfin, avec Jérôme, on bosse sur un jeu en ce moment. On fait des tests qui sont en gros, le système n'existe pas encore. On essaie juste de voir si la façon dont on a envie de jouer, elle est viable. Et on va tester ça. Alors, on le teste en ultra interne. Enfin, on le teste à la maison avec que des personnes qui bossent sur le projet. C'est pas un test en convention ouvert, tout ça, enfin on en est vraiment pas là, mais ça permet de, en fait le boulot du test, c'est de répondre à une question, et on va noter des trucs en plus, mais c'est essentiellement de répondre à une question. Et donc tu fais des tests pour répondre aux différentes questions que tu te poses. La première question qu'on se pose sur ce jeu, c'est: est-ce que c'est intéressant de jouer comme ça? Est-ce que globalement le jeu qu'on fait, c'est pas juste un délire perso, enfin pour le coup c'était une idée à moi, donc est-ce que c'est pas juste un trick qui m'a pris comme ça? Est-ce que c'est vraiment intéressant, quoi? Et est-ce que c'est intéressant pour des joueurs de profils différents? On a une équipe avec des profils différents. Après, quand t'avances, ça va être de tester des choses plus mécaniques, enfin ce qu'on imagine tous quand on parle de test. Est-ce que je mets un plus 2 ou un plus 1? Est-ce que... Ça c'est le plus évident. Et au milieu, il y a un truc qui est super utile. Enfin, moi en tout cas, que j'apprécie beaucoup, surtout pour les tests en conf, c'est le fait d'être forcé de devoir expliquer ton jeu. Enfin, c'est tout con, mais moi je sais, sur un jeu comme Tenga, ça m'a énormément aidé. Par exemple, donc c'est un jeu qui se passe dans le Japon médiéval. Et le Japon médiéval, il y a une tarte à la crème, c'est l'honneur. C'est ce qui fait que la moitié des gens, quand on leur parle de jouer un jeu dans le Japon médiéval, ils prennent une bouche pincée, ils serrent les fesses, parce qu'on les a emmerdés sur des parties avant, quoi. Et c'est souvent à cause de l'honneur. Et dire, ok, comment je présente ça? Comment est-ce que j'explique à mes joueurs qu'ils n'ont pas tellement besoin de se prendre la tête là-dessus? Comment est-ce que j'explique à mes joueurs que c'est pas si différent que ça? Ben en fait, c'est à force d'aller en convention, à force de l'expliquer, on voit qu'il y a des formules qui passent et des formules qui passent pas. Alors, à chaque fois qu'on parle de test, on pense à des tests techniques, mais même sur des trucs aussi bêtes et pourtant aussi capitales que la façon d'expliquer les choses, c'est primordial. L'idée, c'est vraiment ça, c'est répondre à une question, et donc ça peut arriver à n'importe quelle phase. Il faut juste se démerder pour avoir quelque chose de testable.
D'accord. C'est le cas pour vous trois, en fait. Est-ce que vous avez, à différentes étapes de votre création du jeu, vous avez fait tester l'évolution, en fait, du jeu?
Moi, en permanence. Je fais partie du club de Colomiers. Dès que j'avais envie de faire tester une nouvelle règle, de suite, ils y avaient droit. Hein. Et j'avais le retour de suite, hein. Bon ou mauvais.
D'accord. Moi, effectivement, on a pas mal séparé en plusieurs phases de test. Il y a eu ce qu'on appelait le crash test, c'est-à-dire, globalement, l'idée est approuvée par l'éditeur. Maintenant, il va falloir essayer de voir si on peut jouer des trucs intéressants dedans. Bon, on pensait que oui, mais... On a quand même confronté, donc l'univers était à peine dessiné, les règles étaient à peine faites, et donc on a fait vraiment quelques parties pour éprouver la logique de l'univers. Est-ce qu'il y a des questions qu'on se pose quand on est joueur, parce que quand on est MJ, on n'y pense pas forcément. Donc ça, c'était vraiment là pour répondre à la question comment on joue, quels sont les points intéressants vraiment sur lesquels il va falloir mettre l'accent. Donc ça c'était au tout début, et encore c'est comme pour Brand, c'était vraiment un cercle très fermé. Et ensuite nous on a fait des tests pour les règles, pas mal, et aussi pour tester les scénarios, pour éprouver la logique, les enchaînements, et donc sur plusieurs tables pour avoir le plus de retours possible. Et c'est vrai que là aussi il faut distinguer les aspects par rapport aux remarques, les remarques qui sont effectivement pertinentes et qui sont à prendre en compte absolument, de celles qui relèvent plus d'un goût personnel ou d'une orientation que le joueur aurait vue pour l'univers, mais qui n'est pas le propos qu'on cherche. Donc voilà, et donc ça demande beaucoup de travail après pour prendre en compte.
C'est sans doute l'enjeu principal, de savoir qu'est-ce qu'on fait avec les tests, qu'est-ce qu'on fait avec les retours. Il y a. je crois que c'est Neil Gaiman, enfin je sais jamais comment on prononce en fait, qui expliquait qu'en gros, quand quelqu'un te dit que ça marche pas pour lui ou que c'est pas bien, il a quasiment tout le monde raison, tout le temps raison. Quand il va t'expliquer pourquoi ou ce que tu dois faire, il se plante quasiment à chaque fois. Et en fait, c'est quelque chose qui se vérifie assez. C'est-à-dire que le joueur, il ne connaît que ce que tu lui présentes. Sur le cas d'un scénario, sur le cas d'une partie, encore une fois, dans les conditions dans lesquelles tu fais ta partie, ça peut varier énormément. Donc, par contre, s'il te dit que ça lui va pas, il a raison, ça lui va pas. Et ça sert à rien de lui expliquer qu'il a tort, il a raison. Par contre, quand il te dit « Ouais, mais tu devrais faire ça ou tu devrais faire ci », en général, il connaît pas tout ce que vous connaissez sur votre jeu. Il sait pas toute la partie que vous lui avez pas montrée.
Ouais, c'est vrai.
Surtout ouais. Sur les jeux immergés en plus. Mais
ouais, ouais.
Moi, ce que j'essaye de faire, mais j'ai trouvé ça dans un bouquin d'un mec qui s'appelle Yves Lavandier qui fait la dramaturgie pour analyser des scénarios, mais des scénarios de cinéma ou de théâtre ou de choses comme ça. C'est de prendre, en fait, comme chez le médecin, de séparer ce qui est les symptômes du diagnostic des prescriptions et d'essayer de faire le travail dans sa tête de dire ok, la personne me dit je me suis emmerdé. A priori, c'est un symptôme, elle s'est emmerdée, pas de problème. Elle me dit je me suis emmerdé parce que le scénario est dirigiste. Ça, c'est son diagnostic. La raison, c'est que le scénario est dirigiste. Ok, est-ce que c'était vrai ou pas? Est-ce que c'était moi qui menais le scénario de façon dirigiste? Est-ce qu'il était? Après, à quel moment est-ce que je pense qu'il est devenu dirigiste? Souvent, un joueur qui dit que le scénario est dirigiste, c'est parce qu'à un moment, il a voulu faire un truc et qu'on l'a pas laissé faire. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'a pas laissé faire? À quel moment il s'est vexé, le joueur? Alors, je caricature, hein, c'est pas forcément un joueur qui se vexe. Hein. Et ça arrive que ce soit des scénarios dirigistes réellement, mais... L'idée, c'est de se dire, ok, pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Et derrière, la prescription, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je modifie mon jeu ou pas? Est-ce que c'est une erreur ponctuelle qui se reproduira pas? Est-ce que c'est un truc courant? Et là-dessus, faut vraiment être carré et savoir décrypter ce que disent les joueurs, parce que très souvent, les retours, ça va être, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Ça, c'est souvent le retour le moins intéressant. Quelque part, quelqu'un qui te dit « je me suis emmerdé » et qui est capable de te dire à quel moment,
c'est plus intéressant.
Et le plus intéressant, le summum, c'est quelqu'un qui te pose des questions et qui te dit « mais pourquoi est-ce qu'à tel moment, il s'est pas passé ça, par exemple ?» Voilà, et c'est pareil pour ce truc-là, ça vaut aussi bien pour les retours joués que pour les retours non joués, les relectures, les trucs comme ça. Le pote ou le cousin que t'as pas vu pendant 10 ans qui s'en fout du jeu de rôle, qui t'explique ton jeu et qui te regarde avec des yeux comme ça et qui comprend pas pourquoi ça peut être intéressant. Ça aussi, c'est un retour. C'est encore clairement pas celui auquel on pense, hein, mais ce sont des retours utiles. Quoi. Tu veux dire un truc, excuse-moi, je t'ai coupé.
Non, après, je laisse le micro. Juste une dernière question, je rebondis sur l'édition en fait. Comment ça se passe en fait avec l'éditeur? Avec les éditeurs, pardon. C'est de la négociation, j'imagine. Enfin, il y a plein de choses qui se passent. À quel moment ils jouent un rôle dedans? Est-ce qu'ils interviennent sur l'écriture, comment ça se passe en fait?
Ça, je pense que ça dépend de chaque éditeur. Chaque éditeur a sûrement sa manière de faire. Pour parler de mon expérience avec les 12 singes, Pour Crystal, ça a été une proposition de quelques pages sur l'univers et sur ce qu'on joue, qui a été acceptée. En gros, ils ont dit bon, ok, mais on va dans cette direction parce qu'on n'a pas de jeu dans ce style. Donc, on aimerait que tu mettes ce genre de choses dans le jeu. Ils ont imposé le format aussi, puisque les 12 singes, ils ont plusieurs formats, les gammes, les clés en main, les intégrales. Non, ça va pas forcément. Non. En fait, quand on a proposé, on avait plusieurs idées, donc on a laissé le choix. Enfin, on a dit, nous, on voit bien ça ou ça. Donc c'est un qui a quand même été choisi, mais je pense que ça, l'éditeur peut changer vraiment le format. Je sais que j'ai voilà. Et donc après, comment il intervient vraiment dans l'univers et dans les textes? Ça va être en fait, nous, ça a été vraiment un rôle de critique, c'est-à-dire qu'on lui envoyait les idées ou les textes. Et il nous disait, bon, ben ça marchera pas parce que, pour telle raison, ça, ce serait mieux que vous l'orientiez de telle manière. Donc en fait, il donne plus des conseils. Enfin, nous, en tout cas, il nous a donné des conseils plus que vraiment des obligations. du coup, c'était intéressant parce que on pouvait vraiment faire ce qu'on voulait, mais évidemment avec l'accord de l'éditeur. Mais on n'a jamais eu l'impression vraiment de négocier ou de d'essayer de voilà d'avoir un avantage d'un côté, de laisser du lest de l'autre. C'était vraiment plus vous faites votre jeu comme vous le voulez, mais voilà les conseils qu'on vous donne en tant qu'éditeur.
Donc voilà. Merci. Après.
Vas-y, c'est fait pour. Hein.
selon vous, quel est le contenu idéal d'un livre de base ?
J'ai rien entendu.
Selon vous, quel est le contenu idéal d'un livre de base ?
Tout ce qu'il faut.
Il faut remettre sur on. Ah, c'est bon ? D'accord, ok, j'arrive.
Moi, je dirais tout ce qu'il faut pour jouer, mais en laisser suffisamment sous le coude pour que la suite soit intéressante. Moi, j'aime pas trop les jeux un peu comme Donjons et Dragons où il faut s'acheter 40 livres pour pouvoir commencer à jouer. J'aime bien un bouquin où on puisse jouer tranquillement, sereinement, quelquefois, pas forcément toute la vie, mais qu'on ait toutes les clés en main. Un peu comme une intégrale, hein, c'est un peu le principe. Hein. Voilà.
Tu penses à un truc particulier ou...
Non, non, c'est pour savoir en tant que créateur de jeu, qu'est-ce que vous appréciez mettre dedans ? Parce que je suppose que les nombres de pages doivent être limités des fois par les éditeurs, donc il faut faire des choix.
Voilà. Ça dépend vraiment des
éditeurs. Pas forcément.
Ouais. J'ai 12 singes, oui.
Globalement, c'est un peu comme les auteurs. En fait, dans le jeu de rôle, on est tellement structuré qu'on fait un peu ce qu'on peut. Et les éditeurs, ils font un peu ce qu'ils peuvent aussi. Et ceux qui sont biclassés, ils font un peu ce qu'ils peuvent des deux côtés, ils deviennent un peu schizophrènes.
Moi, juste, enfin, ce que j'aime bien dans un livre de base en général, c'est au moins avoir un scénario pour voir l'intention de l'auteur. Parce que il y a des jeux qui sortent avec aucun scénario dans le livre de base et des fois aucun supplément. Et au final, on ne sait pas forcément l'intention de l'auteur. Et montrer un scénario dans le livre de base, ça permet au moins de montrer, bon ben voilà, mon jeu, au moins vous pouvez jouer comme ça. C'est
la vision de l'auteur, quoi.
Voilà, c'est la vision de l'auteur. Après, il y a aussi des jeux qui font ça, mais qui se plantent sur le scénario de base et qui, du coup, montrent une direction qui n'est pas vraiment celle du jeu. Ça arrive parfois, mais un livre de base où il n'y a aucun scénario, je trouve que c'est dommage parce que, voilà, on a un livre, on est MJ, on voudrait lancer une première partie pour voir comment ça tourne et on est obligé de créer, on n'a pas forcément envie. Et on ne sait pas forcément ce que voulait faire exactement l'auteur avec.
C'est un truc qui me gêne moins, ça. Je préfère qu'il y ait un scénario, mais ça ne me dérange pas trop qu'il n'y en ait pas, en fait. Ça dépend vraiment du type de jeu. Mais moi, ce que j'attends d'un jeu, c'est savoir comment... Enfin, c'est con, mais savoir comment jouer, quoi. C'est-à-dire, je m'en fous qui est tout, si j'ai des règles qui me permettent d'extrapoler. Enfin, des règles au sens large, hein, même du background, enfin, peu importe. Si je peux extrapoler, il y a des jeux qui se prêtent pas bien à avoir un scénario défini. Moi, je bossais sur un jeu, donc j'en parlais tout à l'heure, qui s'appelle Tenga. Et le scénario qui est dedans, c'est presque une anecdote, en fait. Il est pas très important. Il est important d'un point de vue historique, parce qu'il se passe à un moment très précis. Mais il est, c'est un jeu, en fait, où les joueurs commencent par créer leur propre groupe ensemble. Par groupe, j'entends, il y a un truc spécial qui s'appelle le groupe et qui n'est pas juste la somme des persos différents, en fait. Un peu comme Ars Magica, par exemple, où vous créez une alliance de mages, si vous connaissez. Et ce groupe, il va avoir un objectif. Et en gros, vous allez mettre en place l'objectif de votre campagne. Et du coup, faire un scénario sur ce jeu-là, c'est assez compliqué parce que vous avez genre la moitié des joueurs qui ne pourront pas le jouer. Ça va juste pas parler à leur groupe, en fait. S'il y a ce qui est nécessaire pour arriver à faire un scénario, alors je vais pas forcément parler de Tenga sur ce coup là parce que je suis un peu jugé parti, mais s'il y a ce qui est nécessaire pour faire un scénario, perso je m'en fous. Si, qui est pas le scénario, je veux dire. Mais ce que je veux, c'est pas avoir de doute, c'est pas me dire ok, comment je fais là, qu'est-ce qui se passe. On m'a dit qu'il fallait faire ça, enfin j'ai compris qu'il fallait faire ça, mais est-ce que c'est marqué? Il n'y a pas besoin de tout préciser, il n'y a pas besoin d'avoir des règles pour tout, mais au moins de ne pas se poser de questions, que ça vienne de façon naturelle, fluide, en fait. Et si la solution, c'est d'aller chercher la page 357, on va chercher la page 357. Quelque part, on a choisi d'acheter un jeu technique. Enfin, maintenant, on sait se renseigner sur les jeux, Et même un jeu qui est sous cellophane, on va sur internet, on voit ce qu'il y a, quoi. Donc vraiment l'idée c'est de pouvoir, ok, c'est de pas se poser de questions en fait. Qu'on puisse extrapoler, qu'on puisse se faire plaisir, mais qu'on ne soit pas en état de manque en fait, tout simplement.
Moi j'ai eu des retours de subavis de personnes entièrement débutantes qui ne connaissaient ni le jeu de rôle, qui n'en avaient rien du tout, qui connaissaient un peu le jeu de plateau. Et je pense que le fait d'avoir des scénarios, c'est quand même rassurant.
Oui, tout à fait.
Pour les gens qui ne connaissent pas, qui n'ont pas de groupe d'amis, de club, etc., etc. Parce que c'est déjà les mecs qui se posent plein de questions. Alors quand ils ont un scénario, je pense que ça les rassure un petit peu.
C'est clairement un plus. Ouais.
Moi, en tant que client, un jeu qui n'a pas de scénario, bon ben, je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est moi, j'attends au moins qu'il y ait un petit scénario, quoi, pour savoir où va l'auteur. Voilà.
Ouais, je pense qu'on peut le savoir avec autre chose que le scénario, en fait. Si le reste du jeu est bien fait, si peut-être il dit à un autre moment, tu vois. Enfin, je sais pas. Moi, je sais que ça me dérange pas trop. Je préfère qu'il y en ait, c'est clair. Mais de la même façon que ça me dérange pas qu'un jeu soit pas fait pour l'initiation, par exemple. Ça me paraît tout à fait. Enfin. Je sais pas, je sais qu'il y a des bouquins, il y a des bouquins de littérature médiévale. Ben un gamin peut pas les lire, quoi. Et j'accepte le principe que, ou un gamin peut pas conduire une caisse. Enfin, il y en a qui le font quand même, mais ça me dérange pas de dire, ok, il y a des jeux de rôle, mais ils sont un peu. Alors, si on prend le mauvais côté élitiste, si on prend le bon côté,
les initiés.
Réservé, voilà, à des gens qui s'intéressent à un type de jeu particulier et qui ne connaissent pas.
Ça,
ça me choque pas.
Quand tu écris le jeu de suite, il faut viser soit les débutants, soit je dirais, les gens plus expérimentés. Ça, de suite, il faut se le mettre en tête, quoi.
Et par contre, sur un jeu d'initiation, effectivement, de ne pas avoir de scénario, ça me paraît complètement con. Mais d'accord.
Ouais, c'est une hérésie.
J'ai une deuxième question, du coup, c'est.
Bien fait de les mettre à côté. Hein.
Ouais. Ils l'ont fait tout seul.
Au niveau du temps que vous mettez pour écrire, par rapport à l'argent que vous avez ensuite.
La quoi ?
Ok, qui chope en premier ?
Est-ce que vous en vivez ? Est-ce que vous avez des caisses en or et tout ?
C'est 50 t'as pas ta Rolex, t'es un blaireau, c'est ça? Putain, j'ai mal joué.
Merde, on a loupé.
Merde, j'ai raté ma vie. Putain, merde. Non, on fait pas ça pour l'argent. Je pense qu'aucun de nous trois faisons ça pour l'argent.
Si. Non, très franchement, ouais. Ouais. Je laisse terminer, mais. Ouais.
T'as pas un métier annexe?
Non, moi je fais que ça et j'essaye d'en vivre, quoi.
Bah, c'est bien, mais félicitations. Parce que c'est pas facile, hein.
C'est super chaud. Je pense qu'il y a des moyens. Pour l'instant, ça va. Ça va, mais c'est. Moi, si vous voulez, quand j'ai commencé à bosser ma vie professionnelle, je bossais au Luxembourg. Et je gagnais très bien ma vie. Et globalement, maintenant, 15 ans après faire du jeu de rôle, j'étais sur vraiment un plan de carrière très personnel, on va dire, au niveau salarial. Ah non, vraiment.
C'est parlant.
Ouais, très clairement. Par contre, aujourd'hui, en cherchant à pas gagner beaucoup plus qu'un SMIC, on peut y arriver, quoi. Mais ça veut dire de bosser tout le temps. Enfin, c'est un boulot de chaque entreprise, quoi.
La question, c'est peux-tu en vivre en tant qu'auteur ou peux-tu en vivre en tant qu'éditeur? Parce que lui, il a la double casquette.
Je triche un peu.
Voilà. Ah, je pense qu'en tant qu'auteur, c'est pas possible. Il y a peut-être deux personnes en France qui en vivent. Croc, peut-être, vit de ses intérêts. Et peut-être une ou deux autres. Mais après, les éditeurs, oui, ils en vivent. Encore que beaucoup ont des doubles emplois.
Alors, ouais, il y en a pas mal quand même qui font autre chose à côté. Ouais.
Ouais.
Par rapport à ce que tu disais, moi, clairement, je peux espérer qu'en vivre qu'à partir du moment où je médite.
Voilà.
Grosso merdo, je crois que c'était le mois de janvier, j'ai eu un souci, j'arrivais pas à écrire, vraiment le truc de la page blanche. J'ai bossé sur un scénario pour un autre éditeur. C'est un éditeur correct, on va dire, mais qui est pas celui qui paye le plus. Bon, mais j'ai gagné 100 euros ce mois-là, quoi. Ça m'a pris un mois d'écrire le scénario, normalement ça prend 3 jours. Hein. Ça, c'était un peu la mauvaise pioche du début d'année, quoi. Mais c'est le fait d'être à son compte, qu'on disait tout à l'heure, le fait d'être plusieurs ou pas. Bah, quand tu t'engages, quoi. Et tant pis. Tant pis, faut gérer. Mais c'est pareil pour quelqu'un qui est, je sais pas, qui est consultant à son compte et qui a pas de client à un moment donné, quoi. C'est la même chose dans tous les tafs, quoi. Juste là, ben ouais, il y a pas de masse critique pour vendre plein de jeux. Il y a pas de, faut vraiment bosser tout le temps, quoi. Faut vraiment bosser tout le temps. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que avant, j'ai bossé chez plein d'autres éditeurs. Donc du coup, c'était assez facile d'avoir des contacts après pour se lancer. Le seul jeu qu'on a sorti chez Lapin Marteau, donc chez une édition qui s'appelle Ryutama. Clairement, moi, j'ai eu des coups de main de quasiment tous les autres éditeurs du marché. Alors, c'est aussi c'est un secteur où c'est difficile d'en vivre, mais c'est un secteur où il y a quasiment tous les éditeurs qui vont aider un concurrent à arriver sur la place, quoi.
Ça, c'est vrai. C'est
vraiment, ça se fait pas partout, quoi.
C'est un milieu très communautaire et très très soudé. C'est un milieu très soudé au final, parce que c'est difficile d'en vivre.
Dans le milieu du jeu de rôle, est-ce que vous avez une idée de ce que c'est qu'un best-seller ? Combien il faut vendre pour rentrer dans la catégorie ? Vous avez une idée ?
Sachant que pour un auteur normal, c'est 30 000 exemplaires, hein, pour donner un point de comparaison.
30 à 50 000 exemplaires pour des bouquins.
Pour des romans.
Des romans. Ben nous, enfin, c'est 10 fois moins, quoi.
La plupart des auteurs de romans, ils n'arrivent pas à 30 000 ou 50 000
exemplaires. Ah non, non, c'est, on parle un de best-seller.
D'accord, ok, pardon.
Nous, c'est entre 3 et 5 000. Hein. Un best-seller, quoi, un Cthulhu, un ADD, quoi. Je pense. Hein.
Ouais, alors à mon avis même c'est beaucoup moins. Cthulhu, le chiffre qui sort souvent c'est entre 5 et 6 000 mais cumulé depuis la sortie, quoi.
Oui, c'est ça. Ouais. La vie des jeux de rôle c'est très long, hein, on parle pas.
Mais c'est le seul, quoi.
Ouais.
Sur un an, sur un jeu qui sort, sur l'année de sa sortie, comptez 1000 exemplaires, quoi.
1000 c'est pas mal déjà.
1000 c'est bien.
Ouais. Ouais, pour un jeu qui se vend bien, quoi.
Ah ouais, c'est pas mal.
Et j'ai une discussion avec un éditeur hier sur lequel on n'était pas. On comparait nos chiffres de vente en fait pour se faire une idée. Et effectivement, c'est pourtant un éditeur qui a pignon sur rue. Et il me disait qu'un jeu qui était vendu à c'était 650 exemplaires à peu près en à peu près un an, et il était content, quoi. C'était pas le meilleur jeu qu'il ait jamais vendu, c'est évident, mais il était content. Donc là-dessus, quand vous enlevez tout ce qui reste à enlever, la part qui reste à l'auteur, mais même à l'éditeur en fait, hein, fait que c'est assez difficile, quoi. Faut produire beaucoup, faut soit produire beaucoup, soit trouver un moyen d'en vendre des tonnes, quoi. Et l'un comme l'autre, c'est pas si évident que ça. Ou alors il reste le racket. Tu peux fermer les issues, s'il te plaît.
Après, bon, il faut remettre au juste milieu, quoi. Je veux dire, le prix d'un jeu de rôle, c'est pas le prix non plus d'un roman.
Non.
Un bon jeu de rôle, c'est entre 30 et 50 euros. Un petit bouquin qui va se vendre à 50 000 exemplaires, c'est plutôt autour de 14 euros, quoi. Un roman.
Une vingtaine d'euros. Ouais,
une vingtaine d'euros.
Format,
ouais. Mais,
c'est voilà. 15-20 euros. Ouais.
Donc, effectivement, c'est pas le même prix, quoi. Et puis, le gros problème qu'on a, c'est que nous, vous le savez très bien, hein, on est distribué que dans des magasins spécialisés, dans des conventions, des endroits comme ça. Le jour où on sera distribué dans les Leclerc, les Carrefour, ça sera une autre histoire.
On sera à nouveau parce que ça a été le cas, mais on l'a perdu.
Ça a été le cas, mais très.
Les librairies de Leclerc.
Ouais, dans les années 80, il y avait Schmitt France qui a distribué les éditions de Schill, Pendragon, des choses comme ça.
Tu sais qu'il y a encore quelques Leclerc qui a
distribué. Landfest, je sais plus qui c'est qui me disait de Landfest.
Qui a distribué dans le rayon culturel.
Ouais.
Tout à fait, ouais.
Mais alors, le gros problème de ces boutiques-là, c'est qu'il faut des quantités astronomiques, hein, d'abord. Ils ne reprennent pas les invendus. Il faut que vous repreniez les bouquins qui sont abîmés. Alors, pour des petits éditeurs qui tirent à 2000 exemplaires, c'est infaisable, c'est pas possible.
Enfin, ouais, il y a plein d'autres problèmes derrière qui font que. La façon dont est structuré le marché des librairies, on va dire, et encore plus des grandes surfaces, et celui dont est géré le marché des boutiques spécialisées, là où on va acheter nos jeux, quoi, est très très différent. C'est-à-dire qu'il faut des capacités financières qui sont hallucinantes pour pouvoir vendre des jeux en librairie, par exemple. Enfin, même des bouquins classiques. Hein. Il y a sans doute des librairies indépendantes, il y a sans doute des façons de faire que je connais pas. Mais j'ai discuté avec quelques éditeurs qui se sont lancés, qui ont essayé de lancer des jeux dans les réseaux de librairies, par exemple, et qui l'ont payé très très cher, quoi. Et qui maintenant ne le font plus vraiment. C'est pas. Il y a notamment des intermédiaires, des choses comme ça qui compliquent, qui font que vraiment ça n'a rien à voir, quoi. Sur les boutiques spécialisées de jeux de rôle, c'est par rapport aux divers marchés de l'édition, c'est un secteur qui reste très simple pour nous. Il y a le coût des invendus, enfin, ça se passe de façon très très simple. Les autres sont encore plus compliqués, vraiment, et de très très loin. Le défaut qu'il y a, c'est qu'en général, on vend par des intermédiaires. C'est-à-dire on vend aux boutiques et les boutiques vendent aux clients. Donc les retours qu'on a des clients et des joueurs, on les a par les forums, par les réseaux sociaux, par les emails, enfin, ou sur les conventions. Et on voit pas en vis-à-vis qu'on peut voir une boutique. Quelque part, nous, notre client, c'est la boutique. Et c'est quelque chose qui est assez difficile à appréhender au début, en fait, quand on n'a pas l'habitude de ce genre de commerce, tout simplement.
Il reste à peu près une dizaine de minutes maximum, parce qu'après, il y a les rondes de jeux de rôle, et les trois sont ou joueurs ou me-jeux, hein, donc voilà.
Par rapport au roman, est-ce que votre univers, ça vous donne envie d'écrire sur l'univers, par un roman ou autre, BD, enfin il y a plusieurs supports, ou est-ce que c'est pas nécessaire pour un jeu de rôle d'avoir son support en plus?
C'est toujours un gros plus, hein, d'avoir un univers qui prend différents formats. Après, bon, il faut trouver quelqu'un qui soit intéressé pour le faire, parce que autant les compétences de dessinateur, c'est quand même très spécifique, hein, et romancier encore plus, hein. Mais ouais, c'est un gros plus. Ça se fait de plus en plus dans le milieu, hein.
C'est pas nécessairement une compétence. C'était surtout ma question. C'est pas nécessairement une compétence de romancier que pour
faire du temps
de rôle.
C'est pas du tout. Il faut avoir le temps, hein.
C'est pas le même processus, non? Non, c'est pas le même processus. Écrire un roman, écrire un jeu de rôle, c'est pas du tout le même processus de création.
En fait, une façon simple de résumer ça, c'est de se dire qu'est-ce qui fait un bon jeu de rôle, qu'est-ce qui fait un bon roman. Et ça va pas être les mêmes choses.
Bien sûr.
Pour le coup, moi je sais qu'on m'a proposé sur cet truc de faire du scénario de BD ou de faire du roman. Je me sens pas à l'aise du tout, quoi. Un jour, quand j'aurai le temps. Avec plaisir, c'est pareil, c'est un rêve de gamin et en courant. Mais aujourd'hui, moi je sais concrètement, puisque je fais que ça, je peux pas me permettre de bosser 6 mois sur un truc et que ça sorte pas, quoi. Ou que ce soit pas bon. Ou de me tirer une balle dans le pied. Je suis en train de réfléchir si c'est pas arrivé. Mais c'est possible que ce soit arrivé, mais enfin, dans l'idée, il faudrait pas
tu
que ça.
Tu t'es tiré une balle dans le pied
un peu tous les trucs d'avant, en fait. mais globalement, ouais, faudrait. Faut faire attention, parce que ce sont des compétences totalement différentes. Cela dit, sur le roman, sur la BD, ce sont des marchés qui sont. Alors, je suis désolé, hein, je parle beaucoup de marchés, mais c'est une déformation, quoi. C'est beaucoup plus structuré, c'est-à-dire qu'on a des éditeurs qui ont, par exemple, beaucoup plus de métiers. Vous prenez n'importe quelle maison d'édition, elle a plusieurs éditeurs. Voilà. À condition d'être suffisamment grande, en fait. Par éditeur, je veux dire, la personne qui. Votre taf en tant qu'auteur, ça va être d'écrire un truc. Le taf de l'éditeur, donc la personne qui édite votre texte, pas forcément la maison d'édition, ça va être de faire en sorte que ce que vous écriviez soit pas de la merde. Et dans la BD, dans le roman, il y a plein de gens qui savent faire ça très bien depuis des années. Dans le jeu de rôle, j'espère qu'il y a des gens qui savent faire ça très bien. Enfin, moi, il y a des gens à qui je demande avec plaisir. Mais on apprend, quoi. On apprend. Il y a quand, enfin, les premiers jeux de rôle en français, ça doit être 84, quoi, ou 82, enfin, dans ces eaux-là, quoi. C'était, enfin, on était gamins. Bon, il y en a peut-être 2-3 là qui étaient pas nés, mais qu'on s'appelle.
L'ultime épreuve.
Ben oui, l'ultime épreuve, tout à fait, ouais. Et donc ces trucs-là, enfin, à notre échelle, ben quand on était gamin, il y avait rien, quoi. Enfin, il y avait rien. Ça commençait à arriver. Donc du coup, c'est normal que, enfin, le roman, il a un petit peu d'avance sur le jeu de rôle, quoi. La BD aussi.
Je connais un auteur qui écrit maintenant plus que des romans et qui a écrit des jeux de rôle. Tessier.
Oui, d'accord.
Philippe Tessier, l'auteur de Polaris.
Ça peut être en fait un bon pied à l'étrier de commencer dans le jeu de rôle, puisque c'est quand même un univers créatif, beaucoup d'imaginaire, pour après se lancer dans la romance ou d'autres supports pour ceux qui ont les compétences.
Ouais, pourquoi pas, ouais.
Il y a plein de gens qui l'ont fait historiquement. Je pense qu'il y a aussi une réalité concrète, c'est que quand ça marche, ça paye plus. Alors le roman, c'est pas forcément le cas. Hein. Il y a plein de romans dans plein de maisons d'édition qui se vendent beaucoup moins que des jeux de rôle. Ça fait un peu flipper, mais pour connaître pas mal d'auteurs de jeux de rôle qui sont passés au roman, il y a assez peu d'élus, quoi. Il y a assez peu d'élus, parce que pour le coup, des gens qui écrivent des romans, il y en a beaucoup plus que des gens qui écrivent des jeux de rôle, quoi. Et donc, il y a beaucoup ce passage qui s'est fait là. Maintenant, ce qui me gêne, c'est que ça sous-entend que le roman ou que la BD, par exemple, est plus intéressante ou est mieux qu'un jeu de rôle. Et aujourd'hui, moi, je vois pas pourquoi. Et j'aurais même tendance à penser l'inverse. Mais ça, c'est parce que je lis pas assez. Aujourd'hui, enfin, faire qu'un jeu de rôle soit bien, faire qu'on s'amuse quand on y joue, faire que ces trucs-là, c'est des compétences très particulières. Et il y a des beaux jeux de rôle. Comme il y a des beaux romans, comme il y a des belles BD. Juste, voilà, ce sont des choses différentes, quoi. Et il n'y a pas de lien de maturité de l'un à l'autre, il n'y a pas de lien de progression, il n'y a pas de lien de... Il n'y en a pas un qui est le bac à sable de l'autre. Ça s'est fait beaucoup historiquement pour des raisons économiques, comme je disais, mais c'est pas... Aujourd'hui, on peut très bien choisir de jouer au jeu de rôle ou de jouer au roman. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre.
C'est être plus multicarte, finalement, que d'être... L'un, fait, entraîne, ouais. Enfin, l'un pousse à l'autre, en fait.
Juste, voilà, je vais vous laisser le mot de la fin, parce que dans 5 minutes... Faut lancer toutes les rondes de jeux de rôle. Donc, si vous avez quelque chose à dire, un mot de la fin, quoi.
Bah, merci déjà.
Oui, merci.
Merci à vous aussi.
Ouais, merci.
À vous trois.
Merci. Le mot de la fin, en ce qui me concerne, c'est les gens qui veulent essayer d'écrire un jeu de rôle, mais qui n'hésitent pas, hein, qui se lancent. Ça coûte rien, à part un petit peu de temps, de passion, de sueur. Qu'ils le fassent pour eux essentiellement. Pas forcément en ayant l'esprit d'avoir un éditeur, de l'argent ou ce genre de choses. Faut partir du principe que ça arrivera pas. Et si le jour où ça arrive, ben c'est un rêve de gosse qui prend réalité, voilà. Mais faites-le d'abord pour vous. Hein.
Ouais, pour résumer, c'est à peu près la même chose. C'est concrètement, si vous voulez être auteur, on s'en fout de votre idée. Terminez un bouquin. Et c'est ça le plus dur, en fait. C'est terminer. Et le reste, c'est pas grave. Commencez par terminer un jeu. Il n'a pas besoin de faire 300 pages. Il n'a pas besoin de faire tout ce que vous voulez. Terminez-en. S'il est mauvais, on s'en fout. Vous avez terminé un jeu. C'est déjà plus que 95% des gens que vous connaissez. Et après, faites le second. Et le second, essayez de le faire bien. Et le second, ça peut être un remake du premier. On s'en fout. Mais terminez un jeu. Faites-le. Et comme c'est vous qui vous faites votre jeu, choisissez un truc où vous pouvez terminer. Fixez-vous des objectifs corrects, mais juste terminez-le, quoi.
Ouais, c'est vrai que terminer un jeu, ça permet de se confronter à beaucoup de choses auxquelles on pense pas forcément, et parce que on peut se dire, ah ben j'ai une super idée pour faire un univers, je vais en faire un jeu, et ensuite on se rend compte que il y a beaucoup de choses pour arriver à quelque chose de jouable et de d'intéressant, même pour votre groupe d'amis, même pour même si ça reste un cercle fermé. Donc je valide.
Et merci beaucoup à tous les trois. Si vous voulez continuer à discuter, ils sont sur les stands qui sont juste derrière. Il y a aussi les autres auteurs pour Crystal. Voilà. Bon, cet après-midi, ils sont en jeu de rôle. Voilà. Et merci à vous tous. Et puis bon week-end. Hein.
Merci.
Merci.